Bonsoir. Il y a certainement en chacun d'entre nous un peu du courage de Tintin, un peu de la pleutrerie de Milou, un peu des grosses colères du capitaine Haddock. Tous trois ont perdu aujourd'hui leur père et nous sommes tous un peu orphelins. En langage journalistique, ça donne à peu près ceci. Georges Remy, alias Hergé, le créateur de Tintin, est décédé cette nuit à Bruxelles des suites d'une leucémie à l'âge de 75 ans. Il était hospitalisé depuis le 25 février dernier aux cliniques universitaires Saint-Luc en service des soins intensifs cardiaques. Ce soir, notre journal sera à la mesure de l'événement. Exceptionnellement, nous resterons avec vous jusqu'à 20h35 et dans un peu plus d'une demi-heure, nous vous proposerons un film qui retrace dans le détail la vie et l'itinéraire de Hergé. Mais tout de suite, avec Elisabeth Burdeau et Christian Jade, quelques lignes de force sur la carrière étonnante de ce petit Belge très ordinaire qui allait devenir le pionnier d'un art nouveau, le 9e art, la bande dessinée.
Et Milou. Et une attaque roule avec les deux monsieur Dupont. Et alors, quand il voit de l'eau, il dit, on va plonger. Et il plonge et il n'y a plus d'eau. Alors...
Hergé ou l'art du mirage. Un mirage où tous nous nous sommes laissés prendre des dizaines de fois, comme les Dupont. Cet enchantement de quelques heures de lecture, il fallait à Hergé de longs mois pour le fabriquer.
Au minimum 2 ans. L'idée d'abord, le découpage en 62 tranches d'une page.
Oui.
Et ensuite le crayonné, ensuite le vrai dessin, décalquer le brouillon sur un feuillet propre. Ça fait combien de passages, je dirais, sur chaque trait, hein? Et puis alors le décor, les costumes, etc. Bon, ça fait à peu près 2 ans.
Travail, précision, minutie même. Qui aurait pu imaginer sous ces images merveilleuses l'observation maniaque de la réalité? Ici, c'est Hergé qui sert de modèle et c'est son bras droit, Bob Demort, qui s'inspire de son attitude pour dessiner un personnage. Se dégage-t-il une morale de toutes ces aventures? On a parfois accusé Hergé d'anticommunisme primaire et de racisme. Il s'en défend.
Ce n'était pas raciste, pas du tout, du tout. Il faut se replonger dans l'atmosphère de l'époque. Et il y avait chez nous, tout le monde était raciste alors. Nous étions colonialistes, ça c'est vrai.
Oui.
Il y avait notre belle colonie, bon, il y avait l'exposition coloniale à Paris, il y avait notre loterie coloniale. Donc, c'était pas raciste, mais c'était certainement un sentiment, mais généralisé, de supériorité à l'égard d'un autre peuple. Ça c'est évident. Mais la conception du monde, malgré tout, c'était un peu celle du scoutisme. Et vous, c'est pas une morale rigide, c'est pas ça, mais il y a un certain sens de la vie. Par exemple, je ne sais pas, mais enfin la fidélité à l'amitié, hein, le respect de la parole donnée, le respect de la nature, parce qu'enfin les scouts, on leur enseignait, on leur faisait remarquer que la nature c'était quelque chose.
Été 76, la Castafiore, tournesol, fête un des rares honneurs rendus à l'homme tranquille qui préférait le calme de son bureau aux manifestations publiques. Dans le parc de Wolfendal, à Uccle, on dévoile une statue à la gloire de Tintin. Tintin Hergé, Hergé Tintin, leurs noms finissent par se confondre et à la longue peut-être, le nom de Tintin effacera-t-il celui d'Hergé?
Des proches collaborateurs, des amis de Hergé, ceux qui travaillaient avec lui au studio Hergé, avenue Louise, ou à la rédaction du journal Tintin. Nous avons essayé pendant toute la journée d'établir le contact, de recueillir leurs témoignages, mais apparemment la consigne a été donnée et elle est respectée. Pas de commentaires pour le moment. L'enquête de Renaud Denis.
C'est ici, au 5e étage du 162 avenue Louise à Bruxelles, dans cet immeuble d'apparence tout à fait anonyme, que se trouvent les studios Hergé. C'est ici que Hergé continuait de travailler avec une dizaine de collaborateurs, parmi lesquels son secrétaire particulier Alain Barrand et son bras droit de toujours, Bob Demour, le dessinateur. C'est ici que nous sommes rendus dès que nous avons appris la nouvelle pour recueillir des témoignages, mais tous les collaborateurs de Hergé ont refusé de recevoir la presse. Pas de déclaration, pas de prise de vue. On sait seulement que Hergé était encore venu ici mardi pour travailler et qu'il espérait vivre encore quelques années pour terminer l'album de Tintin qui était en ce moment en chantier. Nous sommes rendus également à l'immeuble du journal Tintin qui se trouve lui dans le centre-ville près de la gare du Midi, place Barra. Mais là, même consigne qui semble avoir été donnée par les familiers de Hergé, pas de prise de vue, pas de déclaration.
C'est ce matin vers 11h que la nouvelle de la mort de Hergé nous a été confirmée. Certains d'entre vous ont appris cette nouvelle directement par la radio, d'autres par la rumeur publique. Il faut dire que l'information s'est répandue comme une traînée de poudre. Une chose est certaine en tout cas, Hergé, Tintin, tout le monde connaît. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions glanées par Alain Carlier dans les rues de Bruxelles, quelques instants à peine après que nous ayons appris la nouvelle.
Et vous savez qu'Hergé, le père de Tintin, est décédé la nuit dernière?
Ça, c'est de la blague.
Non, sérieusement.
Non, ça, je ne vous crois pas.
Je connais très peu de bandes dessinées, mais Tintin, je trouve que c'est le seul auteur dont j'ai lu toutes les bandes dessinées. C'est le seul.
Qu'est-ce que vous aimiez bien dans Tintin?
La naïveté. La manière dont il voyait le monde, quand on sait que les premiers albums, bon, il n'avait pas voyagé. La manière dont il voyait le monde, c'était la manière dont la Belgique voyait le monde à cette époque. Et c'est ce que j'aimais bien là-dedans.
Moi, j'ai connu Hervé quand il était encore scout à la Trinité, hein, qui s'amusait à faire des croquis.
Oui, il faisait déjà des croquis à l'époque.
Croquis avec le master en robe de chambre et tout.
Vous le connaissiez personnellement alors.
Personnellement, oui, quand j'étais jeune.
Et quel était le personnage d'Hergé quand il était jeune?
Mais il a pris, au fond, le chou, c'est Tintin, c'est son père. Il avait pris, qui était au Congo, il avait un peu croqué. Ce
sont mes premiers souvenirs de lecture. Je dois dire que je l'ai entendu il y a 10 minutes à la radio, ça m'a fait beaucoup d'émotion.
Je pense que c'est sans doute le caractère des personnages qui était très important chez lui. Par exemple, le capitaine Haddock, bon, il suffit de dire ce nom-là, et on voit très bien quelqu'un qui a un certain comportement, qui a certains défauts, mais des défauts qui le rendent sympathique.
Bon, Hergé, c'est le grand personnage de la BD en Belgique. En tout cas, c'est un des premiers qui a manqué. Qui a fait marcher la BD, quoi. On peut dire que c'est vraiment le pionnier de la BD en Belgique.
Si les gens dans la rue, vous venez de les entendre, sont émus par la disparition de Hergé, ce même sentiment d'émotion se retrouve à tous les niveaux de la société. Ainsi, on apprend que le roi et la reine ont envoyé cet après-midi un télégramme de condoléances à Madame Georges Remy, la veuve du disparu. Philippe Mouraud, le ministre-président de la Communauté française de Belgique, rend hommage aujourd'hui à celui qui était incontestablement, je cite, le premier des créateurs de bandes dessinées européens. Les ministres du gouvernement étaient réunis ce matin au 16 rue de la Loi. Ils ont appris la nouvelle à la sortie du Conseil. Henri Cougnard s'était là pour enregistrer leur réaction.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Belges qui sont identifiés à Tintin en découvrant à travers les histoires d'Hergé, comme ça, tout un monde nouveau, un monde merveilleux, puisque c'est le monde de la bande dessinée.
À quel personnage de Tintin, d'Hergé plutôt, vous identifieriez?
Je dirais que physiquement, je ne vois pas autour pour ne plus nous comparer, M. Decroix et moi-même, qu'au capitaine Haddock, mais je pense que tous les Belges auraient envie d'être un peu Tintin.
Marie, de temps en temps, de tomber sur un album de Tintin et, croyez-moi, d'y rester assez longtemps, de découvrir encore beaucoup mieux que je ne l'avais compris il y a 20 ans ou 30 ans. Je serais peut-être un petit mélange de Tintin et de capitaine Haddock.
Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, surtout d'enfants, apprennent à connaître notre pays par l'image de ce jeune reporter dynamique, entreprenant, courageux et somme toute extrêmement sympathique.
Alors, dans tous les personnages d'Hergé, lequel vous semble le plus proche pour vous? Auquel vous identifieriez-vous?
C'est en tout cas pas le général Alcazar.
Dans tous les personnages évoqués par Hergé, lequel vous semble le plus proche de vous?
Ah, c'est difficile, mais je dirais, puisque M. Gaulle a déjà pris le meilleur, je dirais moi, Milou, le chien, parce qu'au final, j'ai une vie de chien.
Vous ne trouvez pas qu'on oublie qu'il n'y a pas seulement Tintin, il y a aussi Kuik et Flupke, qui sont, je crois, très représentatifs aussi d'une certaine joie de vivre nationale.
Tintin, c'était bien sûr l'expression du génie créateur d'un homme, Hergé, mais c'était aussi, dès le début, une aventure vécue en équipe. Hergé lui-même, au départ, a été le premier étonné du succès des aventures de Tintin. Et très vite, il a dû s'entourer de plusieurs collaborateurs. Au début, ils étaient quatre avec lui, Demort, Cuvelier, Jacobs et Leloup. Roger Leloup, avec qui Alain Carlier évoque maintenant quelques souvenirs.
Bonjour à tout le monde, on a serré la main à tout le monde, on le voyait souvent. On était appris dans son bureau, on travaillait très étroitement, il avait un petit studio, c'était pas quelque chose, une usine. Et puis, il y avait toujours quelque chose de sacré, il y avait l'heure du thé, notamment, où il amenait d'ailleurs des gens extraordinaires. Moi, j'ai vu Paul-Émile Victor, Bombard, notamment, on a discuté avec des tas de gens, et il y avait cette simplicité. Il voulait toujours faire partager, ceux qui venaient le voir, tout son studio. Donc c'était sacré, c'était l'heure du thé et on a appris beaucoup de choses. On voyait des gens intéressants, bien sûr. Et puis une certaine chaleur humaine, quoi, une simplicité de la part d'Hergé, une très grande simplicité.
Que lui doivent la bande dessinée belge ?
Ah, la bande dessinée belge et la bande dessinée mondiale. Je crois que la bande dessinée, d'abord, cette notoriété, d'en avoir fait vraiment un métier à part entière. On n'y croyait pas, je crois que c'est depuis Hergé que beaucoup de parents se disent « Tiens, mon fils sera bien dessinateur de bande dessinée, on gagne sa vie avec ça. » C'était plutôt un métier qui était, on dirait-je, parallèle, on faisait ça, on faisait autre chose. Hergé en a fait vraiment un métier à part entière, avec une très grande conscience. Et puis, il a raconté des aventures extraordinaires. C'était un conteur fantastique, les millions d'albums. Je crois qu'il a véhiculé toute la bande dessinée, qu'elle soit belge, française ou même internationale. Il a été partout dans le monde. Je crois que Tata, le petit reporter Tata, c'est un des premiers visages vraiment, très imposants de la bande dessinée.
Tintin, il faut bien le dire, et plusieurs ministres d'ailleurs se sont chargés de le rappeler aujourd'hui, Tintin, ce n'était pas que ce héros généreux aux prises avec tous les méchants du monde. Tintin, c'était devenu aussi au fil du temps une affaire commerciale, un produit d'exportation. Il y a les studios Hergé, il y a le journal de Tintin, il y a les éditions Casterman qui ont publié les albums. Il y a donc autour du phénomène Tintin, pour tout dire, une véritable industrie qui s'est créée. L'enquête de Michel Connet.
En Arabie, en Islande, en Allemagne, à Bornéo, au Pays de Galles, on lit Tintin. En Afrique du Sud, en Suède, en Italie, en Finlande, on lit Tintin. En Angleterre, au Portugal, au Brésil, en Argentine, en Grèce, en Malaisie, en Corée, en Chine, on lit Tintin. En Espéranto, en Occitan et en Picard, bien de chez nous, on lit Tintin. 32 langues différentes sont tombées sous le charme du petit reporter à la houe. Le savait-il Hergé en envoyant dès 1929 son héros de papier chez les soviets que Tintin serait aussi un phénomène économique. 23 titres, 80 millions d'albums vendus de par le monde. En 1934, Casterman édite prudemment 5000 exemplaires de Tintin au Congo. Aujourd'hui, chacun des 23 titres est tiré chaque année à 180 000 exemplaires en moyenne, rien qu'en français, à quoi il faut ajouter 1 million d'exemplaires en langues étrangères, chaque année aussi, et tout cela pratiquement pour l'exportation, de quoi aider notre balance commerciale. Tintin représente à lui seul un tiers de la production Casterman. Sur 600 employés, 100 ne font que du Tintin. Cela, c'est mesurable, mais Tintin, ce fut aussi du cinéma. C'est encore une foule de gadgets publicitaires. C'est enfin la carte de visite d'un hebdomadaire de bande dessinée. Impossible de comptabiliser.
Jacques de Pierrepont, merci de nous avoir rejoints ce soir sur notre plateau. Vous animez toute la soirée une des principales émissions de Radio 21, mais vous êtes aussi un chroniqueur spécialisé en bande dessinée. Alors si je vous demande ce que Hergé a apporté à la bande dessinée, non seulement en Belgique, mais aussi dans le monde. C'est vrai qu'on lit Tintin, c'est vrai que Tintin est dans les principaux musées, mais est-ce que Hergé, le père de Tintin, est-ce que Hergé a fait école ?
Oui, il a fait école vraiment partout. Enfin, d'abord, on peut dire qu'il est le père de la bande dessinée européenne moderne, avec le français Alain Sepulveda. Bon, par exemple, enfin, on peut dire qu'en Europe, la bande dessinée avant Hergé, c'était du texte avec une illustration au-dessus ou vice-versa, mais pas vraiment à proprement parler de la bande dessinée quand on parle de figuration narrative en termes un peu sérieux. L'idée de la bulle dans l'image, bon, c'est à partir d'Hergé que cette idée s'implante. Puis, je crois qu'il a apporté énormément au point de vue du récit. Bon, maintenant, on appelle ça la ligne claire. C'est encore un langage un peu barbare. La ligne claire pour signifier un trait plein. Et dans ces traits pleins, dans les espaces, des couleurs. Donc, un récit au total très lisible au point de vue dessin, mais lisible aussi au point de vue narration. Ce sont des récits très bien charpentés. Puis, je pense que le succès mondial de Tintin, c'est aussi le fait que Tintin est un héros qui n'a pas vraiment de caractère propre. Chacun peut s'y identifier. Et pour contrebalancer, il y a évidemment toute la galerie des personnages qui ont une épaisseur de caractère certaine. Séraphin Lampion, la Cassafiore, Haddock, Tournesol, bien sûr, etc.
Finalement, c'est la diversité qui fait la richesse.
Oui, il y a une richesse énorme dans cette œuvre. On peut relire les albums 20 fois, 30 fois, on va toujours y trouver quelque chose.
Alors disons qu'aussi sur le plan des idées, on en a touché un mot tout à l'heure, les albums de Tintin n'ont pas toujours fait l'unanimité. Il y a eu ce fameux Tintin chez les soviets, où régnait un anticommunisme qu'on a qualifié de primaire. On pense aussi, et on l'a vu tout à l'heure, à certains extraits de Tintin au Congo. Sur ce plan aussi, c'est à signaler, il y a eu une évolution et des doubles impressions, des rééditions.
Et on a énormément glosé sur les aspects politiques cachés de l'œuvre d'Hergé. Bon, je crois que c'est passé à côté de la vraie richesse de l'œuvre. Je pense que Hergé était surtout un moraliste impertinent. Donc il y a une certaine époque dans ses œuvres de jeunesse à juger une série de situations politiques, c'est Tintin au Congo, Tintin au pays des soviets, en reflétant simplement, disons, l'idéologie dominante du Belge moyen de l'époque. Et puis il y a un tournant avec le Lotus Bleu et la rencontre de Chang. Et on dirait qu'à ce moment-là, Hergé a pris conscience d'une certaine responsabilité vis-à-vis du lecteur. Il commence à détailler les décors qui vont servir de cadre aux aventures de Tintin. Bon, il arrive qu'il fasse écho aux événements politiques du monde. C'est la guerre entre le Japon, enfin c'est l'invasion de la Chine par le Japon dans le Lotus Bleu, c'est l'Anschluss dans le sceptre d'Ottokar, mais je ne pense pas que ce soit tellement ça qu'il faille retenir de l'œuvre. Bon, à preuve, effectivement, au fil des rééditions, les albums changent subtilement. D'une part, pour coller à l'actualité, sinon les jeunes lecteurs ne comprendraient plus. Exemple, on va prendre Tintin au pays de l'or noir. Bon, la première édition, Tintin est enlevé par des terroristes entre guillemets juifs. Il est encadré là par deux soldats britanniques. La Palestine est encore colonie britannique. Seconde édition, en 1970, je pense, dans ces eaux-là, et bien à ce moment-là, Tintin débarque au Proche-Orient, mais Hergé ne précise plus l'endroit du débarquement. Et bon, il se fait enlever par des gens qu'il est beaucoup plus difficile d'identifier. Bon, le deuxième exemple qu'on peut prendre, et là Hergé faisait preuve d'une grosse dose d'humour, c'est Kokanstok. Kokanstok ad hoc des livres Les Noirs enfermés dans la cale. Les Noirs s'exprimaient dans une première version en petit nègre, et ad hoc leur répondait en petit nègre. La seconde version qu'on voit ici, eh bien, Hergé a changé les dialogues. Les esclaves parlent un français correct, mais ad hoc, lui, continue à parler en petit nègre, et je crois que ça résume tout ce qu'on peut penser d'Hergé de ce point de vue.
Bien, merci Jacques de Pierrepont. Je vous signale donc tout de suite que dans une vingtaine de minutes, nous vous proposerons une rétrospective exceptionnelle consacrée à la vie, à l'œuvre, à l'itinéraire de Hergé, une rétrospective vraiment exceptionnelle puisqu'elle durera près d'une demi-heure. Je vous conseille donc très vivement de rester à l'écoute de JT1 au-delà de l'heure habituelle.